On est bien content de vous retrouver, les amis.
Et voilà.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette Roll Mops numéro 70.
Absolument.
70. 70, et on va parler globalement beaucoup d'une année.
De l'année 1970.
Ben 1970.
Voilà. Exactement. C'est toi, Bubu, qui avait lancé l'idée de. Tiens, 1970, si on
Oui, tout à fait, parce que je suis né le 9 novembre 1970.
Mais bien sûr. Ah là
le
là, bien
jour
sûr.
De la mort du général de Gaulle.
Tu es très auto-centré, mon ami.
Oui, je sais.
Voilà, donc ben 70.
C'est pour. Je suis un peu dans le mood actuel avec notre cher de Donald,
oui,
qui vient d'être réélu.
Voilà, ouais. On lui dédie l'émission. Il a 70 ans, donc il y a bien plus que ça en plus. Hein, donc,
qui crève, c'est charogne.
Mais c'est des faits, c'est pas des opinions, hein, qui crèvent.
Exactement.
Absolument, d'accord. Tout bien, tout honneur. Oui, donc voilà, on a décidé de ne passer des morceaux que de 70.
Et sont, voilà.
Alors, soit enregistrés, soit sortis. Je sais pas, moi c'est des sorties d'albums ou de singles pour
sorties, moi. Mais à l'époque, il y avait moins de temps entre l'enregistrement
oui,
et
c'est
le.
Vrai.
Donc, moi, la plupart, j'ai regardé, c'était souvent la
oui,
même
c'est
année,
la même chose, ouais. Voilà. Alors, ça nécessite effectivement de faire un peu de recherche. Mais ceci dit, l'année 70, c'est quand même une année extrêmement riche.
Oui, c'était pas trop difficile.
Voilà. Et c'est une année un petit peu charnière où on passe effectivement du psyché à des choses un petit peu lourdes.
Ouais.
Hein, c'est un peu les débuts du hard rock.
Mais c'est ce qu'on écoute derrière nous, Black Sabbath.
Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, ça va pas nous empêcher quand même de voyager, hein, comme d'habitude. Alors, on va aller aux États-Unis et en Angleterre, uniquement, hein, faut bien le dire, en Grande-Bretagne plutôt. Alors, États-Unis, Los Angeles, on va y aller une fois, on va aller à Cambridge, on va aller à San Francisco deux fois, on va aller à Hollywood, à Detroit, à Nashville, on va souvent à Nashville. Hein.
Oui.
Ouais, oui.
Bah, c'est un petit peu là que le rock'n'roll est né, en partie. Hein.
Tout à fait, et en 70 aussi.
En 70 aussi.
Ouais, bien sûr.
C'est sûr.
Et Chicago également. Eh bien, on va aller à Londres quatre fois. on s'est pas donné le mot. Mais...
C'est un petit peu là que rock'n'roll est né aussi.
Et en 70.
Exactement.
et donc, Cambridge. Donc, Londres quatre fois. Cambridge. Et puis, Leeds. Tiens, Leeds en 70.
Ah, ça rappelle quelque chose.
Alors, oui. Et puis, on va aller au Pays de Galles à Bron-y-Hor.
Oh, Bron-y-Hor.
Oh, c'est super beau là-bas.
C'est super. Oui, oui.
Ils ont un fromage excellent.
Oh, exact.
Ah,
mais
voilà.
Tu crois pas si bien.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr.
Mais je suis sérieux comme gars.
Mais bien sûr. Mais oui, t'es sérieux, bien sûr. Voilà, donc spécial 1970. C'est toi, Bubu, qui va ouvrir le bal, n'est-ce pas?
Mais exactement, avec un album de 1970 qui va être révolutionnaire pour le groupe et pour la musique également, puisque je parle de Deep Purple, oui,
oh,
classique
bah
de chez classique, et notamment de l'album In Rock, vous savez, ce fameux album où nous avons les cinq musiciens qui sont exactement qui sont représentés comme les présidents des États-Unis. Décidément, ça fait le lien avec l'actualité. On est
super.
Trop fort. Et effectivement, ce line-up de Deep Purple, c'est ce qu'on appelle le Mark II, puisque c'est vraiment pour moi le meilleur line-up. Hein, évidemment, c'est Richie Blackmore à la guitare, Ian Gillan au chant, Roger Glover à la basse, John Lord à l'orgue, et puis Ian Pace à la batterie. Donc là-dessus, évidemment, sur ce disque, on retrouve les grands standards, hein, Chad Lindham, Flight of the Rat, Into the Fire, ou bien Hard Loving Man. Et puis il y a également aussi en parallèle un 45 tours qui était sorti, qui s'appelle Black Knight. Et également, c'est sur ces sessions qu'avait été enregistré un petit morceau instrumental que nous avait passé notre cher Lolo, qui s'appelle James Stew, si vous vous souvenez.
Oui, bien sûr.
Voilà, tout à fait. Et donc en fait le disque commence par un morceau qui s'appelle Speaking. En fait il a été écrit au départ sous le riff de basse de Roger Glover. Il a voulu s'inspirer du titre Fire de Jimi Hendrix. Et ça a donné
ça.
Ian Gillan a écrit les paroles en reprenant des phrases carrément de Little Richard. Vous allez pouvoir l'entendre. Et à l'origine le titre avait été nommé Kneel and Pray. Et puis en fait ils l'ont joué beaucoup en live en 69 pour en fait l'enregistrer au tout début. En janvier 1970, voilà. Alors, bon, j'ai coupé l'intro qui est un peu bordélique, et puis cette ouverture d'orgue à la BAC qui, moi perso, m'ennuie un petit peu pour arriver à un temps raisonnable pour passer à la radio. Et d'ailleurs, cette intro avec cet orgue, eh bien, c'est un morceau qu'ils avaient enregistré en 69 qui s'appelait Waffle. Voilà, c'était faut le savoir. Ouais, Waffle, tout à fait, ouais.
Exactement. C'est du belge, non?
Ben, peut-être. Oui, et puis pour finir avant d'écouter ce superbe morceau Speed King, eh bien Richie Blackmore considère que In Rock avec Machine Head, évidemment Machine Head avec Smoke on the Water, eh bien c'est pour lui sorti en 72, deux ans après, ils en ont sorti entre les deux qui est pas terrible. Pour lui c'est vraiment les meilleurs disques de Deep Purple.
On peut pas lui donner tort.
Eh bien exactement. D'accord. On y va les filles.
Ouais, c'est parti. Allez. Avec plaisir. Yeah.
Voilà les amis, c'était bien entendu le Creedence Clearwater Revival qui était enchaîné avec Deep Purple avec ce superbe morceau, hein, Run Through the Jungle, sorti sur le 5e album, pour moi le meilleur du Creedence Cosmos Factory. Bah oui. C'est le meilleur avec la pochette la plus laide malgré tout.
Oui, c'est terrible. Ouais. En salle de sport.
C'est ça. Enregistré en mars 70, c'est sorti en avril sur Fantasy Records, également en 45 tours avec la phase B Up Around the Bend. Et d'ailleurs, le magazine Record World a qualifié ce single comme étant un monstre à double face. Vite fait, hein, cette chanson donc sort en 70, compte tenu de Fortune and Son qui était sorti l'année d'avant, tout le monde a pris cette chanson comme une chanson qui parle du Vietnam. Pas du tout, les amis, puisqu'en 2016, Fogerty a expliqué que la chanson en fait parlait en réalité de la prolifération des armes à feu aux États-Unis déjà à l'époque, quoi. Voilà, donc à noter que bon, et c'est Fogerty qui l'a composé, et également il assure l'harmonica sur cette superbe chanson.
Et on retrouve sur cet album un mélange entre country, folk, rock et du psychédélique. Il y a toujours une espèce de truc hyper planant
et de la soul music, puisqu'il il reprend à
Earth, Food, incroyable album.
Voilà.
Mais superbe enchaînement, bravo Bulbu.
Merci beaucoup.
Ça se fait hyper bien.
Allez, à vous mon ami.
D'accord. Bah, voilà, moi 70, je me suis replongé un petit peu, bah, comme tous les trois. Et moi j'ai pensé à un groupe. J'avais déjà passé ce groupe, un groupe que j'aime beaucoup.
La Folie Child.
Non. Ah, j'aurais pu en 70. Il y avait des choses. Oh, on t'entend plus. Oh bah alors, Rizik. Bah, voilà. Il était.
Non, puis en 70, tu t'en souviens bien, t'avais quoi, 25 ans?
Oh, je m'en souviens pas. Donc, Spirit, groupe de Los Angeles, formé en 67 par le guitariste chanteur Randy Wolf, surnommé California par Jimi Hendrix, parce qu'il a joué avec Jimi Hendrix dans un groupe, hein, qui s'appelle Jimmy James. Le batteur Ed Cassidy, personne assez âgée, hein, c'est le beau-frère de Randy California. Le chanteur Jay Ferguson, le bassiste Mark Hands et le claviériste John Locke. Donc, le groupe connaît une audience assez importante avec les trois premiers albums, hein, superbe. Spirit en 68, The Family of Place Together en 69 et Clear en 69 également. Donc les trois premiers albums de Spirit sont caractérisés par un mélange de musique baroque, planante parfois, et jazzy souvent. Ed Cassidy, le batteur, et le clavier John Locke sont des musiciens de jazz à l'origine, hein, ils s'en donnent à cœur joie. Donc une sorte de musique à la fois expérimentale mais très accessible et très planante, cool, vraiment c'est superbe, très très particulier. Avant la sortie en décembre 70 du quatrième et mythique album 12 Dreams of Dr. Sardonicus, Spirit sort le single 1984 début 70. Donc j'aurais pu mettre un morceau de 12 Dreams of Dr. Sardonicus, mais j'avais déjà passé. Donc je me suis dit, voilà, ce single-là, il est très particulier. Les paroles sont inspirées évidemment du roman de George Orwell, où Randy California, qui écrit le morceau, fait le lien entre la société américaine et ce qui se passait dans 1984. Certaines radios républicaines ont souhaité ne pas passer ce morceau. Il a été un peu, justement, censuré.
On est 54 ans après dans la même situation. Voilà.
Spéciale dédicace, ouais, à Donald fucking Trump. Donc on va écouter ce fameux 1984 par Spirit en 1970, évidemment.
Allez, c'est parti.
Knocking on your door. you started thinking inside your head that you should stand up and fight. Oh, just where will you be when your freedom is dead? 14 years from tonight. Those plexiglass copters, they're your special friends. They see you every night. Well, they call themselves protection, but you know it's no game. You're never out of their sight. We'll be right back.
Ah, superbe.
Un nouveau très bel enchaînement, mon ami Bulbu.
Merci superbe, beaucoup. Superbe. Magnifique, ouais. Cette chanson. Magnifique.
Ah,
ouais,
voilà. Ah, c'est
avec
énorme.
Je me souvenais pas de ce tapis de piano qui monte.
Mais c'est l'arrivée. J'ai oublié son nom. Mais c'est l'arrivée du clavier sur ce. C'est le premier album avec ce nouveau claviériste qui intègre le groupe au moment de cet album en fait. Hein.
Mais quel groupe ?
Mais c'est les Kinks, bien sûr. Vous avez tous reconnu les Kinks.
Les frères Davis.
Alors on a d'abord passé Spirit, hein, pour rappel, 1984 single de 70 également. Et donc là, c'était This Time Tomorrow, pardon. Donc c'est sorti de l'album Lola vs Power Man and the Money Go Round Part 1, plus connu sous le nom de Lola.
Lola,
voilà. Donc c'est l'album qui a remis les Kings sur le devant de la scène en 70. En effet, en fait, le groupe avait subi une énorme baisse de popularité durant les années 68 et 69, pourtant avec d'excellents albums. Hein. Sorti de deux albums majeurs, hein, The Village Green Preservation Society et le fameux Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire.
Et moi, c'est mes deux préférés.
Ben, moi aussi. Bah, oui. C'était non pas des flops, hein, mais ils n'avaient pas de single
exactement.
Charts,
ah, ben ça, clairement, il n'y a pas de single sur cet album-là.
Et donc, cet album, Lola vs Power Man and Wanna Go Round Part 1, ne présageait pas effectivement qu'il y ait effectivement un gros succès. Mais il y a un single, c'est ça, ouais. Et la raison, c'est l'énorme regain d'intérêt, la sortie du fameux single Lola. Et ça a tout ravagé dans les charts, Lola. Enfin, un excellent morceau, hein, un tube. Hein. Ray Davis est très en colère contre l'industrie de la musique. Hein. Il sortait effectivement d'une période un peu de vache maigre. Et il avait envie de dénoncer la machine à produire des artistes préfabriqués. Donc cet album en fait c'est un vrai pamphlet contre l'industrie musicale. Et tous les morceaux ont à voir avec une critique de l'industrie musicale. Donc par exemple, tout le monde en prend pour son grade. Les producteurs peu scrupuleux, par exemple avec Denmark Street, les journalistes musicaux qui s'enflamment à chaque nouveau groupe sur un morceau qui s'appelle Top of the Pops, un morceau très hard rock un peu. Hein. Et les directeurs de maisons de disques avec Power Man, et Ray Davis va même jusqu'à se moquer des hommes en général, notamment Ape Man, hein, qui est un brûlot contre les hommes qui polluent la planète, hein, et Got to be Free par exemple. Mais, comme à l'habitude, les moqueries de Ray Davis sont plutôt drôles, hein, parce qu'il y a toujours de l'ironie, hein, c'est son flegme. Il est en colère, mais il est drôle toujours. Mais évidemment, le clou, c'est Lola, hein, qui traite effectivement de la dysphorie de genre, on dirait aujourd'hui, hein, de l'homosexualité, ce qui est assez avant-gardiste. Hein.
Bien sûr.
Alors moi, j'ai choisi le bijou pop-folk, hein, tu disais, Eric, que tu avais pensé aussi à ce morceau, le fameux This Time Tomorrow. Alors, ça parle aussi de la critique, quelque part, de la vie et du show business, parce qu'effectivement, Ray Davis, dans ce morceau, parle de l'ennui et de la monotonie d'être tout le temps sur la route, de concert en concert, dans les avions, sur les routes. Hein. Ray Davis se demande où il sera demain à cette heure-ci, This Time Tomorrow, où est-ce que je serai demain à cette heure-ci. Et il fantasme sur ce que l'avenir lui préserve. Hein. Il se demande toujours s'il sera toujours dans l'avion, dans un mois, dans un an, ou alors en train de regarder un film en vol. Et je ne sais pas où je vais et je ne veux pas voir où je vais, dit-il. Voilà, donc c'est de la lamentation du chanteur. Et à noter que cet album effectivement marque la fin du contrat des Kings avec Pye Records, puisque l'année d'après, en 71, il signe pour RCA Records pour 5 albums avec une autre génération d'albums qui, pour moi, j'ai un peu perdu le fil avec les albums post 70. Je dois bien dire, hein, je dois bien l'avouer.
Disons que moi, je serais le mec de RCA, je serais un peu vert, quoi, quand même. Hein.
C'est ça.
Ils ont quand même filé 5 albums qui étaient quand même pas des chefs-d'œuvre.
On est d'accord. Ouais. Alors après, par contre, une nouvelle fois, sous cette chanson, on voit que les thèmes sont encore d'actualité 54 ans après. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté en 1970. Le problème de l'industrie musicale mainstream et puis des festivals supermarchés insupportables.
Oui, bref, voilà.
Voilà. Alors, mon cher Eric.
Alors, voilà. Donc, moi, je me suis posé la question, comme vous, hein, qu'est-ce qu'on allait passer ? Donc, parler de l'année 70, donc, c'est d'abord parler d'une année charnière entre les années 60 et les années 70. En décembre 69, le flower power des hippies de Woodstock a cédé la place à la sauvagerie de Altamont. Hein, c'est décembre 69. Les Beatles se séparent et le psychédélisme agonise. Donc, pendant ce temps, Black Sabbath, qu'on écoute en fond sonore, débarque comme les quatre chevaliers de l'apocalypse, tandis que le prog rock déboule avec ses solos interminables. Dans ce contexte, deux attitudes existent chez les anges déchus du psychédélisme, s'acharner coûte que coûte ou s'adapter à ce nouveau monde. Donc pour évoquer ce dilemme, nous allons écouter deux morceaux qui reflètent deux choix différents, deux attitudes différentes. Donc dans un premier temps, on écoutera des repentis du LSD qui se réorientent vers le country rock. Puis dans un deuxième temps, on écoutera un acharné de la défense psychédélique en train de sombrer définitivement. Voilà, et entre les deux, on fera un petit crochet juste pour le plaisir du côté de Leeds, parce qu'en 70, il se passait des choses du côté de Leeds. Voilà, je vous propose d'écouter tout de suite de tout ça et on en reparle juste après. Let's go.
Quel suspense. Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed.
behind. And no, that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about a quarter to nine. At Trevor Junction at 17-2, at a quarter to ten, you know it's driving again. Driving that train on cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind.
sun going down, when the earth streams in the morning. Send a cage through the post, make your name like a ghost. Please, please, baby lemonade.
Un beau triptyque.
Voilà, on vient d'écouter juste à l'instant Baby Lemonade de Syd Barrett, donc tiré de son ultime album enregistré à Bay Road avec donc David Gilmour, avec Rick Wright et puis le batteur de Humble Pie. En juillet 70, ce titre illustre un état de fait. Au début de cette décennie, le fondateur de Floyd est resté bloqué dans les années 60 sous LSD et il n'en sortira plus du tout.
C'est vrai que voilà. C'était fort. Hein. Moi-même, je partais là.
Juste avant, on a écouté un très bref extrait donc, des Who, de la version intégrale du Live at Leeds. Voilà le complément où on écoute l'intégralité de Tommy. Donc, c'était le morceau There's the Doctor, chanté par donc, Pete Townshend. Et enfin, notre séquence avait démarré avec un morceau des Californiens de Grateful Dead, intitulé Casey Jones. Donc, un morceau qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que ce collectif de hippies hallucinés produisait quelques mois auparavant, notamment sur l'album Axe Moxoa. En effet, la bande de Jerry Garcia a carrément changé son fusil d'épaule. Ils ont abandonné le psychédélisme pour revenir au fondement de la musique américaine nourrie de country.
Je suis passé complètement à côté, moi, de ce groupe-là.
Eh bien voilà. Alors, je sais que vous allez me dire que Grateful Dead, c'est quand même un groupe un peu tout pourri, dont la popularité est souvent franchement incompréhensible. Parce que
oui,
c'est quand même des mecs qui tournent en stade. Hein.
Oui, ça dépend des skeudes.
Mais vous aurez donc tout à fait raison. Mais cela dit, voilà. À partir de 72, Grateful Dead va effectivement se vautrer dans un déterminable morceau sans queue ni tête. Mais entre 69 et 71,
je suis d'accord.
Le groupe a tout de même sorti quelques titres tout à fait recommandables. Voilà, donc celui qu'on vient d'écouter. J'ai souhaité vous passer ce morceau car j'ai réécouté Grateful Dead pendant mes vacances suite au récent décès de Phil Lesh, le bassiste du Grateful Dead. Voilà, en conclusion, sur les morceaux qu'on a écoutés, deux tiers des musiciens ils sont morts quand même. Hein.
C'est ça.
Voilà, voilà, je laisse la parole sans
très bien
plus attendre.
Alors moi les gars, j'aurais pu continuer cette année 70 avec deux titres phares de roi de la soul et du funk, James Brown et Curtis Mayfield. J'aurais pu mettre Sex Machine et Moving Up, mais on serait cru sur RFM et non pas sur l'excellente Radio Campus Orléans 88.3. Donc que nenni. Non, je vous propose d'écouter un titre Superbad, initialement appelé Call Me Superbad, qui est sorti le 2 octobre 1970 sous la forme d'un 45 tours single
avec
en trois parties.
Voilà,
partie 1, partie 2 sur la face A, la partie 3 sur la face B. Il est resté classé numéro 1 au classement R&B et numéro 13 au Billboard Hot 100 de 1970. Donc extraordinaire, mieux que Sex Machine en fait.
Ouais,
alors qu'en fait, 50 ans après, on se souvient plus de Sex Machine que de ce morceau-là.
Oui.
Donc effectivement, James Brown est accompagné des GBs fraîchement formés, qu'il a formé en 69. Alors, on ne va pas l'entendre là, mais sur la partie 3, on entend à un moment James Brown dire au saxophone ténor Robert McCullough « Blow me some train, brother », c'est-à-dire « Souffle-moi du train, mon frère », référence à Coltrane, évidemment, c'est assez rigolo. Ouais. Et puis après, je vous parlerai de l'enchaînement avec ce morceau de Curtis Mayfield que vous découvrirez juste après notre ami James Brown. Here we go, baby.
Watch me, I got it, hey, I got something that makes me wanna shout, I got something that tells me what it's all about, I got soul, and I'm super bad. Super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I do. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. Myself. I've got soul.
much.
You know,
and if people would just get read the Bible and read the book of Revelations, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it, put it to everyday life.
Sisters! Niggas!
Bah ouais, carrément, carrément.
Alors, c'est envoûtant.
C'est ça, tout à fait, c'est ce bon vieux Curtis Mayfield. Donc, voilà. Avec l'ouverture de son premier album, Curtis, où on retrouvera évidemment Moving Up dessus. Donc, ce fameux Don't worry if there's a hell below, we're all gonna go. Going to go, c'est-à-dire s'il y a un enfer en bas, on va tous y aller. Donc au début, hein, on entend, il fait référence aux Noirs, aux Pagos, aux Juifs, aux Pacos, aux faces blanches, etc. Alors au début, il y a une femme hein, qu'on entend, en fait, elle proclame les vertus du livre de l'Apocalypse.
Ah,
en introduction, voilà. Après, on a la guitare fuzz bass.
Je connais un très bon album qui traite de l'Apocalypse.
Moi aussi. Voilà, donc bon, en fait, surtout, bah, Curtis Mayfield, cette chanson, en fait, c'est plus ou moins un avertissement qu'il lance concernant bah, l'état des relations raciales dans le pays, puis la tempête qui gronde, les émeutes de Watts, etc., qui sont pas très loin. Et puis surtout, Nixon en prend plein son garde. Curtis, il parle également de pollution, de drogue, de police, de justice corrompue, de prostitution.
Que d'actualité.
Ben encore une fois, ça, voilà. Ça fait flipper. À noter également que ce titre a été utilisé eh bien, sur le super film de Blaxploitation, Superfly, réalisé par Gordon Parks Jr., sorti en 72. Voilà, les amis.
Et dans Starsky et Hutch.
Oui.
Donc, quand j'entends ces guitares-là, en fait, on pense toujours à ces vieilles séries. Allez, Laurent, à toi.
Oui. Alors, moi, j'ai envie que. Alors, vous avez remarqué, chers auditeurs, auditeuses hein, de Radio Campus 88.3, Roll Maps, que cette année 70, on a vu plusieurs genres musicaux. On a eu du hard rock, on a eu du psychédélique, on a eu de la soul.
De la country.
De la country aussi, bien sûr.
La pop.
Et de la pop. Et donc là, je voulais, moi, quand je pense 70 aussi, je pense aussi au mouvement folk britannique, principalement. Donc moi, j'ai envie de vous faire écouter là deux groupes, un très connu, l'autre moins, qui s'inscrivent dans cette année 70, dans ce mouvement folk très posé, très nature. Donc on va écouter ces deux morceaux et on en reparle après. Vous êtes d'accord ?
Allez, c'est parti.
Allons-y.
Thank you.
Ah, et deux folk très différents. Hein.
Très différents, ouais.
Le deuxième était oriental.
Et, oui, oriental. On va y revenir. Donc, vous avez reconnu en ouverture de ces deux morceaux, le Led Zeppelin avec le morceau Tangerine. C'est le fameux Led Zeppelin 3 avec cette fabuleuse pochette. Mes beaux-parents, l'original avec la roue qui tourne.
Wow. Oh,
ouais. et donc, troisième album de Led Zeppelin, donc, sort en octobre 70 chez Atlantic Records. Donc, composé en grande partie dans le cadre bucolique du cottage de Brown E. Hoare au Pays de Galles qui appartenait à Jimmy Page. Donc les deux couples, Jimmy Page et sa copine plus Robert Plant, sa femme et sa petite fille, donc s'installent sur un mois complet complètement isolé dans un cottage qui n'y a pas d'électricité, il y a pas d'eau courante. Donc c'était vraiment, ils avaient quand même deux roadies qui leur faisaient à manger. Donc, alors pourquoi, parce qu'ils, en fait, ils sortaient d'une tournée énorme à la sortie de leur deuxième album, hein, avec les Wall of Love et compagnie, et en fait ils ont fait 25 concerts en un mois. Donc ils étaient sur les rotules. Et ce mouvement folk arrive effectivement en 70. Là, on passe vraiment du hard rock à ce mouvement-là. Ils vont continuer un petit peu sur Led Zeppelin 4 avec quelques morceaux effectivement un petit peu folk aussi. Et donc là, en fait, les morceaux les plus durs, les Immigrant Song, Friends, etc., ont été enregistrés avant. Et tous les morceaux folk ont été donc enregistrés à Brown E. Hoare. Voilà. Très, très influencé par... du folk américain, même pas, c'est vraiment très 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 particulier, virtuose, hein, Jimmy Page, extraordinaire, hein. Mais ce morceau, en fait, il avait été composé avant même la création du groupe, c'est-à-dire que Jimmy Page avait composé cet album au milieu des années 60 et il l'a ressorti, et durant ces sessions-là, il y a eu plusieurs autres morceaux qui sont sortis sur d'autres albums de Led Zeppelin en 77 et en 80. Voilà, donc côté donc folk de Led Zeppelin, hein, quasiment toute la phase B du Led Zeppelin 3 est vraiment très très folk, hein. J'avais passé le Hats Off to Roy Harper, hein, qui est un morceau très, très bluesy, très, très, très dur. Alors j'ai enchaîné avec un groupe que j'aime beaucoup, je me souviens plus, il me semble que j'avais passé un morceau de ce groupe-là. Il s'agit de Pentangle, groupe pareil, britannique, formé en 67 par un duo déjà très connu dans le folk revival des années 60. Hein. Dès le début des années 60, c'est John Rambond et Bert Jansch qui partageaient donc une maison à Londres, hein, à St. John Wood's, et donc étaient déjà des musiciens connus, hein, sur la scène folk. Donc ils retrouvent trois autres musiciens, dont effectivement la chanteuse Jackie McShee, qui a une voix superbe, là on l'entend, mais elle fait des morceaux a cappella, elle a une voix vraiment angélique pour moi. Donc dans sa configuration initiale, donc, il y a la chanteuse Jackie McShee, le contrebassiste Danny Thompson et le batteur Terry Cox. Le groupe enregistre 6 albums jusqu'en 72, date à laquelle ils se séparent. Le nom Pentangle vient effectivement du fait qu'ils sont 5, et sur scène on les voit, hein, ils sont tous les 4 à 4 coins, et Jackie McShee est sur un tabouret haut au milieu pour chanter. Donc bien que Pentangle soit nominalement un groupe de folk, les manques individuels, c'est ça qui fait la richesse aussi de ce groupe, avaient des goûts et des influences musicales très variées, puisque effectivement on avait par exemple Jackie McShee avait des bases en musique traditionnelle, hein, elle a beaucoup apporté de musique trad. Cox et Thompson, c'était des amoureux du jazz, hein, le contrebassiste et le batteur, on le voit à leur morceau. Et Rainborn, un intérêt croissant pour la musique ancienne, ouais. Et Bert Jansch, un goût pour le blues et les artistes contemporains. Voilà, Pentangle aura donc été l'un des piliers du folk britannique des années 70, aux côtés de Fairport Convention, Steel Icepan ou encore John Martin ou Roy Harper. Voilà.
Très bien. Écoutez, les gars, avant de se quitter, laissez la main pour le final à Eric. On va peut-être dire que la prochaine Roll Mops 71, la Saône-et-Loire, ça sera le 20 novembre.
Et pour finir, tout à l'heure, on parlait du déclin de LSD. Là, on va parler de l'émergence de l'héroïne.
Oui.
On va parler de deux artistes différents. Donc, l'un y a survécu, l'autre, non. Donc, le premier, c'est Iggy Pop, effectivement, on parlera des Stooges et on finira l'émission avec ce morceau évident pour cette émission, 1970. Pour moi, vraiment, un de mes morceaux préférés.
Oui.
Alors, ce croisement, moi, je suis saxophoniste aussi, ça a libéré plein de gens comme moi qui se disaient « Waouh !» En fait, ça peut être magique avec ce son à la Coltrane qui vient se fracasser sur ce qu'on n'appelle pas encore du punk. Et puis avant ça, le morceau qu'on va entendre tout de suite a été enregistré le samedi 3 octobre 70. Jimi Hendrix était mort 15 jours avant, parce que c'est aussi ça, 1970, à l'âge de 27 ans. Donc un groupe de jeunes Canadiens nommé Full Tilt Boogie Band enregistre à Hollywood les parties instrumentales d'une reprise de Buried Alive in the Blues, un morceau de Nick Gravenight. La chanteuse doit enregistrer les voix le lendemain. Mais elle ne viendra pas achever la chanson, une overdose d'héroïne ayant mis un terme à sa carrière fulgurante à l'âge de 27 ans.
Oui.
Donc voilà, avec la mort de Janis Joplin, les années 60 sont définitivement bouclées. Voilà, on écoute tout de suite ce dernier morceau inachevé, Buried Alive in the Blues, puis on enchaînera donc avec l'ironie sauvage des Stooges. Et d'abord, on est mort avec le président Pompidou. Let's go, au revoir, à bientôt.
Ciao, ciao.
1970 vous apporte ce que vous souhaitez. santé, bonheur familial, succès dans vos études ou dans votre travail. Que l'an nouveau soit celui de l'espérance. Bonne année.
That's it.